Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Cécile Duflot, députée de Paris, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bonjour à tous et bienvenue à Cécile Duflot, invitée du grand jury RTL Le Figaro. Bonjour à vous et en effet coprésidente du groupe écolo, comme on dit l'Assemblée, ancienne ministre de François Hollande, plus précisément de Jean-Marc Ayrault. On n'aura pas trop d'une heure pour évoquer avec vous tous les sujets d'actualité, sujets écolo, sujets verts, qui concernent l'environnement et sujets politiques, à commencer par cette polémique qui monte, qui s'enflamme depuis quelques heures autour de vos propos sur Vichy, votre évocation de Vichy. On va prendre le temps de détailler tout cela. C'était vendredi matin à l'Assemblée nationale à propos de la déchéance de nationalité. Pour vous interroger, Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Bonjour. Et avant la fin de l'émission, Cécile Duflot, Benoît Galeret, vous posera d'autres questions, celles que tous ceux qui vous auront écouté et regardé depuis une heure auront envie de compléter, de vous poser. Bonjour. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et comment fait-on pour participer, comme on dit?
Voilà, la recette, vous la connaissez maintenant, hein, c'est toujours la même. Hashtag le grand jury, et puis dans vos tweets, vos réactions, vos questions. Et je viendrai débriefer tout ça avec vous en fin d'émission. Vous notez les remarques les plus pertinentes, à tout à l'heure.
Et je pense qu'il y en aura beaucoup. Cécile Duflot, vous êtes montée au front, vous êtes montée en première ligne. Vous étiez une des premières oratrices vendredi matin à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'arrivée à l'Assemblée du projet de révision constitutionnelle. Instaurant donc dans la Constitution et l'état d'urgence et la déchéance de nationalité pour tous. Et à cette occasion, vous avez invoqué le régime de Vichy. Je cite une des phrases: le dernier régime à avoir massivement utilisé la nationalité, la déchéance de nationalité, fut le régime de Vichy. Vous en parlez comme d'un traumatisme qui a contraint les législateurs quelques années plus tard, justement, à changer de braquet, en tout cas à modifier cela. Et en cela, vous faites tout de même un parallèle entre Vichy et ce qui se passe aujourd'hui. Ça crée beaucoup de réactions. Marisol Touraine, ce matin, estime que vos mots ont dépassé votre pensée.
Alors, je vais vous dire une chose très simple. Non seulement mes mots sont le reflet exact de ma pensée, qui est une analyse historique sur ce qu'est la déchéance, mais je les maintiens tous. D'ailleurs, ces mots se retrouvent quasiment dans les mêmes termes sous la plume de Robert Badinter dans sa tribune du Monde, parue le même vendredi matin. Il a écrit « Seul le gouvernement de Vichy a pris à cet égard des mesures collectives odieuses ». Je pense que quand on parle des valeurs, il faut pouvoir convoquer l'histoire à la table du politique, c'est-à-dire se souvenir pourquoi on crée à la Libération une peine d'indignité nationale et pas la déchéance de nationalité, parce que le traumatisme était énorme. J'ai rappelé ça.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ensuite, le Premier ministre de la France, Manuel Valls, dans l'hémicycle, a falsifié mes propos.
Il vous a répondu.
Et a monté et organisé une polémique artificielle. Il ne m'a pas répondu, il a falsifié mes propos. Oui, bien sûr, en prenant exactement votre exemple, en disant d'invoquer Vichy. Je n'ai pas invoqué Vichy, j'ai rappelé l'histoire de la déchéance de nationalité et pourquoi nous avons rompu, par le biais de l'indignité nationale, avec cette capacité d'échoir, parce qu'elle avait massivement été utilisée.
Mais c'est intéressant. Il n'y a pas que Vichy, il y a aussi, au milieu du 19e siècle, la déchéance, elle est inventée pour les Français qui continuent à avoir des esclaves.
Vous savez que c'est faux. Ça a été dit dans le discours du Premier ministre, mais aujourd'hui, on voit bien que sur l'histoire, d'ailleurs, et l'histoire n'est pas honnête, elle est convoquée pour appuyer un débat.
Cette peine de déchéance, elle existe pour les Français qui refusent l'abolition de l'esclavage.
C'est une peine de déchéance. On pourrait se lancer dans un grand débat historique de déchéance de citoyenneté, c'est-à-dire qu'on leur enlève des droits de citoyens. À l'époque, il y avait deux catégories, on va dire, de Français, ceux qui avaient un certain nombre de droits civiques et d'autres qui en avaient moins. C'est la même logique que quand on a renvoyé après le décret Crémieux au statut d'indigène. Il y avait plusieurs degrés dans la citoyenneté. De la même manière qu'en 1972, vous allez me laisser terminer parce que je pense que ça mérite d'aller au fond de cette question. Pourquoi le Premier ministre a organisé ce que j'appelle une cabale?
Pourquoi le Premier ministre a fait ça? C'est grave?
C'est indigne que le Premier ministre de la France mente sur les propos tenus par une parlementaire à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est assez facile. C'est enregistré et c'est écrit. Donc, il suffit de regarder
quand
ce que j'ai dit.
Quand vous dites « ment », c'est-à-dire qu'il a utilisé de façon détournée,
exactement.
Volontairement,
exactement.
Pourquoi faire
pour faire planer ce doute, pour faire que Marisol Touraine tienne ce type de propos, ce
serait regrettable. Aussi, qui demande que vous fassiez des excuses.
Non, il demande à ce que vous citiez son nom ce matin à la radio, parce qu'il y a un remaniement dans 3 jours. Bien ouais.
Donc, c'est une façon de se rappeler à François Hollande, à la mémoire.
D'essayer d'être le meilleur bon élève.
Mais si les faits historiques sont ceux que vous avez rappelés, mais vous n'êtes pas une historienne, vous êtes une politique.
Exactement.
Et vous parlez de Vichy, non pas dans la tribune, non pas dans un journal, mais à la tribune de l'Assemblée nationale. Oui. Donc vous savez bien, en utilisant ce qui est quand même la bombe atomique du débat politique,
non.
C'est-à-dire de citer le régime de Pétain, non. Que vous allez provoquer un impact politique fort.
La bombe atomique du débat politique, c'est de faire une opération tacticienne entre le président de la République actuelle et son prédécesseur, et vous le savez mieux que moi, les journalistes, M. Jacques Cuisine l'a très bien montré sur TF1 il y a quelques jours, avec nos valeurs et notre texte fondamental qui est la Constitution. Mais je vais vous dire, pour citer effectivement des débats qui ont eu lieu, celui que je vais citer, il s'appelle René Pleven. Il était garde des Sceaux en 1972. C'est un des héros de la France libre. Il y avait un débat sur le code de la nationalité et M. Mazot était président de la Commission des lois. C'est d'ailleurs très intéressant, ce qu'on voit qu'à cette époque, le débat était de donner les mêmes droits aux Français naturalisés qu'aux Français de naissance, ce qui n'était pas le cas. Il y avait une période qu'on appelait le stage probatoire. Et René Pleven, à cette époque, évoque le retrait de la nationalité en disant « Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel, ayant su par expérience ce qu'on peut souffrir lorsqu'on est déchu de la nationalité française, ce qui m'est arrivé à une certaine époque. Je regrette que cette garantie, il parle de la position du Conseil d'État, de l'avis conforme du Conseil d'État, n'ait pas existé alors. » René Pleven, en 1972, s'appuie sur ses souvenirs et sur la manière dont on peut utiliser une brèche dans les textes avec d'autres.
Mais alors revenons sur le fond. Enfin,
oui, le fond est important, Madame Martichoux, parce que la réforme aujourd'hui prévoit.
Elle ne vise plus les binationaux, par exemple, spécifiquement.
Non, mais
c'est la déchéance
mais
pour
de
tous.
Fait,
c'est essentiellement. C'est ce que vous dénonciez au départ.
Oui.
C'est pas suffisant
non,
comme
moi, je vais vous dire, j'ai une position très claire sur la déchéance de nationalité, qui est de deux natures. D'abord, une nature relative aux valeurs et une deuxième sur son efficacité. Sur la question des valeurs, cette question de la brèche que l'on crée dans la Constitution sur la déchéance de nationalité est un danger. Et là aussi, je vais prendre les mots de la tribune de messieurs Mazot, Leclerc, Cohn-Bendit. Ils écrivent très bien en disant que ouvrir cette déchéance à de simples délits, catégorie la plus vaste de notre droit pénal, qui englobe notamment les délits d'opinion, c'est ouvrir la porte à ce qu'un jour, pour des raisons d'opinion politique, syndicale ou de divergence d'idées, avec un pouvoir autoritaire, un Français ou une Française puisse être déchu de sa nationalité. Ce que nous faisons aujourd'hui dans la Constitution, si nous votons cette réforme, c'est que nous créons une brèche qui pourra être modifiée par une loi simple.
Mais est-ce que les Français ne vous attendent pas quand même sur cette question? Est-ce que vous n'êtes pas à côté de la plaque? Alors pas seulement vous, mais tous ceux qui s'échinent à dénoncer cette constitutionnalisation de la déchéance et de l'état d'urgence, est-ce que vous entendez les Français qui, eux, réclament de la protection, effectivement, y compris juridique, au plus haut niveau?
Et donc il faut être honnête. Des innocents,
il faut être honnête.
Et qui, aux yeux des Français, ne sont plus dignes d'être Français.
Il faut être honnête. Et dire que cette modification de la Constitution n'apporte strictement aucune nouvelle protection. Le Premier ministre l'a dit lui-même. C'est un symbole, c'est un mauvais symbole, mais ça n'est qu'un symbole.
Est-ce qu'en politique, quelquefois, les symboles ne sont pas nécessaires?
Eh bien, je vais vous dire, je pense que c'est un symbole inverse. Et là, c'est au ministre de la Justice actuel que je me réfère, qui a écrit un rapport très intéressant sur, après le 7 janvier, sur la réintroduction d'une peine d'indignité nationale, qui fait une analyse extrêmement pointue, dans laquelle il montre que, à l'inverse du but conduit, c'est-à-dire d'essayer d'être dissuasif vis-à-vis des terroristes. Au contraire, on va dans le sens de leur martyrologie.
Mais on sait bien de toute façon que cette mesure n'est pas efficace.
Il prend l'exemple de ce qui s'est passé avec la poussée anarchiste de la fin du 19e siècle, avec des attentats aussi graves que ce qu'on a connu, avec l'assassinat d'un président de la République quand même, et que la 3e République, qui était pourtant plus vulnérable, qui était l'objet d'attaques des monarchistes et des bonapartistes, a résisté en disant nous traiterons ces gens. Laissez-moi terminer que comme des criminels de droit commun. Mais je vais vous dire, Madame Martichoux, qu'est-ce qu'on aime en ce moment? Les petites polémiques rabaissées. Et quelle est la méthode qu'emploie le Premier ministre sur un débat, vous le voyez bien, qui est un débat complètement vicié, un débat tactique qui repose sur les valeurs de la République, ce qui est une catastrophe.
Oui, mais vous avez à peu près la même rhétorique. Lui vous a dit, d'ailleurs, vendredi matin, arrêtez de vous caricaturer vous-même. Mais, et tous les deux, vous renvoyez la balle. Qui caricature?
Je vais vous dire une chose. Mon discours de vendredi, il est là. Je n'en retire pas un mot et j'invite ceux qui se posent des questions.
Donc,
que je peux très bien comprendre.
Aucune excuse.
Non mais c'est même indécent de demander des excuses. je ne vois pas sur quoi. Il suffit d'aller lire ce discours. Et je pense d'ailleurs que si le Premier ministre a cherché à monter cette polémique artificielle, c'est parce qu'il était embarrassé par le fond de cette intervention.
Pourquoi ?
Parce que la méthode que j'ai remarquée avec ce gouvernement, qui m'apparaît assez désastreuse, c'est que d'abord, ils essayent de vous acheter. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive en ce moment avec les parlementaires. C'est pour ça que c'est dramatique. On fait miroiter qui imposte au gouvernement une mission. On a donné tout un tas de missions ces derniers temps. Ensuite, si vous résistez, si vous résistez, on vous menace. On vous menace sur votre investiture, on vous menace sur des subventions. Enfin, je sais que les députés qui m'écoutent...
Vous avez des éléments pour
bien
fonder
sûr,
ça.
Bien sûr, c'est la réalité. Il suffit de voir d'ailleurs certaines scènes où vous avez vu le ministre des Relations avec le Parlement ou le Premier ministre s'agacer dans l'hémicycle sur des interventions de parlementaires socialistes qui ne leur plaisaient
c'est
pas. Et enfin,
de
si vous résistez à la menace, on vous salit. C'est ce qui est à l'œuvre avec moi aujourd'hui. C'est de dire, pour éviter d'avoir à débattre sur le fond, sur la nécessité de cette réforme, et plutôt sur son inexactitude, on va la salir.
Vous vous sentez sali par l'intervention de Manuel Valls vendredi matin à l'Assemblée, quand il vous a répondu.
Ce qu'il a fait, il est Premier ministre. Je suis parlementaire, nous sommes dans l'hémicycle. Il peut y avoir des bagarres politiques, il peut y avoir des emballements dans les débats à la télévision. Dans l'hémicycle, dans le cœur battant de la démocratie française, pour moi, ça n'est pas tolérable.
Vous pensez que Manuel Valls fait régner la peur sur la majorité ?
Pour une part, oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il souhaite obtenir le vote de mercredi. Avec d'ailleurs quelque chose d'encore plus grave. Ce que j'ai lu, ce qu'a dit le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le journal du dimanche ce matin. Le premier secrétaire du Parti Socialiste dit « Dès mercredi, le mistigri passera à droite, François Hollande pourra souffler. » C'est-à-dire que ce vote, qui devrait réunir l'ensemble des Françaises et des Français, qui devrait être un acte d'unité nationale, c'est une basse manœuvre tactique. Et donc, en fait, il s'agit de rejeter la carte porte-malheur du côté de la droite pour espérer que la droite sera plus divisée que la gauche. Et c'est pour ça que je suis si ferme. Et c'est pour ça que vous avez eu raison, Madame Martichoux. Vous m'avez dit que j'étais assez émue vendredi. Oui.
Parce je vous l'ai dit avant. Parce que j'avais trouvé que votre voix était effectivement, excusez-moi, chevrotante. Donc j'ai
ça peut arriver. C'est le problème des femmes politiques à la tribune. C'est toujours plus difficile que d'avoir une belle voix de baryton qui fait des frissons, qui donne des frissons à l'Assemblée. Mais le fond, pour moi, est l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire de manœuvre tactique avec la République. Et c'est ce que nous sommes en train de subir. Et s'il faut que nous soyons peu nombreux à le dire, c'est pas grave, nous serons peu nombreux. Moi, je souhaite qu'un certain nombre de parlementaires socialistes aient ce courage. Vous savez, l'argument suprême pour faire voter les députés mercredi sera de leur dire « pas de problème, vous n'êtes pas d'accord, mais à la fin, ce ne sera pas voté parce que la droite ne votera pas ». Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Pour aller au-delà même de la question de Guillaume, vous pensez que Valls fait régner la terreur aussi à l'Élysée ? Est-ce que, par exemple, cette question-là, à un moment donné, vous avez l'impression que Hollande était prêt peut-être à revenir dessus, à abandonner, et que Valls ne lui permet pas d'envisager cette option ?
J'étais pas dans l'intimité de leur rencontre, mais il y a évidemment un mystère que chacun connaît. Entre le lundi, la journée du lundi, où plusieurs témoins tiennent de la bouche du président de la République, qu'il a compris, et à mon avis a raison, Christiane Taubira l'a bien rappelé hier soir. Quand on ouvre quelque chose qui est aussi grave, qui soulève tellement, pas de passion, mais de sentiments malsains, on peut la refermer. Elle a dit avec raison, oui, bien sûr, il l'a prononcé à Versailles, 2 jours et demi après les attentats. Ensuite, on se rend compte que finalement, c'est pas la bonne porte, que la stigmatisation des binationaux, c'était une erreur. Et donc, on peut refermer cette porte. C'est très digne en politique, de pouvoir dire que des choses dites dans l'instant à la réflexion
mais quand
ne
on
sont
cherche
pas les bonnes.
L'union nationale
et donc,
qui est
lundi,
à la hauteur du moment, c'est vrai que c'est compliqué.
On est dans tout, dans tout sauf l'union nationale. Moi, vous savez, j'ai revendiqué l'unité nationale contre certains de la droite qui disaient nous voulons tel et tel critère.
Et vous avez voté l'état d'urgence aussi.
Oui, j'ai voté la prorogation de l'état d'urgence. J'ai aussi parlé
vous
à Versailles.
Vous regrettez d'avoir voté la prorogation ou pas ?
Non, je ne regrette pas. Je pense que
c'était de l'émotion. Vous avez cédé à l'émotion ?
Non, pas du tout. Je dis que nous étions tous embarqués. J'ai déposé un amendement pour le limiter à 2 mois. C'est pourquoi je ne voterai pas d'autres prorogations, parce que je pense que si nous votons une autre prorogation, nous allons nous lancer dans un état...
Mais pour revenir à la question sur le rapport de force entre, François Hollande et Emmanuel Valls...
Oui, vous m'avez pas laissé terminer, mais qu'est-ce qui s'est passé ce fameux mardi soir, la veille de l'annonce en Conseil des ministres ? Je n'ai pas d'informations. Mais je crois qu'il y a un piège dans lequel est tombé le Premier ministre depuis longtemps, qui est de surjouer l'autorité, de croire que c'est dans la manifestation extérieure de l'expression de son autorité qu'il gagne auprès des Français.
Une forme d'autoritarisme. Ça veut dire qu'il est le mauvais génie de François Hollande dans cette affaire.
Je ne fais pas d'interprétation ni psychologique ni dans leur relation. Ils sont tous les deux responsables. Le président de la République préside le Conseil des ministres du mercredi 23 décembre. Mais je crois que il y a un sujet quand même qu'il nous faut être capable d'affronter. Et quand, effectivement, vendredi, la motion de rejet que j'ai défendue, qui a donné lieu à cette opération malsaine de la part du Premier ministre, a été votée notamment par Bernard Debré, dont on sait qu'il ne porte pas dans son cœur, qu'il ne partage pas du tout les positions des écologistes. Il faut se dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont capables de résister à la pression du moment. Mais vous parliez des sondages, il y a quand même...
Les Français.
Oui, il y a 65% des sympathisants de gauche qui sont favorables à la déchéance de nationalité dans un sondage, 66% qui disent que ce n'est pas une priorité. Donc, quand on fait de la politique, il faut bien sûr regarder avec attention les sondages, mais il faut surtout avoir des convictions et des valeurs. Et vous savez,
On comprend en tout cas à travers vos propos que c'est quand même Manuel Valls que vous jugez comptable d'avoir été jusqu'au bout de cette
question.
C'est
lui qui est au banc du gouvernement pour présenter ce texte qui s'appelle un texte de protection de la nation et qui est un texte en fait de manipulation et de joute tactique entre l'opposition et la majorité. C'est dramatique. Vraiment, je pense qu'on peut faire ça. Vous savez,
Il y a un mot que vous avez employé à plusieurs reprises depuis le début de l'émission, c'est tactique. Mais quand on dit un terroriste n'est pas digne d'avoir la nationalité française et quand on peut la lui enlever, on le fera grâce à la déchéance. Ça n'est pas de la tactique, c'est une mesure symbolique, mais c'est pas un calcul politicien, c'est une prise de position forte.
Alors d'abord, il y a une question intéressante sur l'efficacité de la mesure. Moi, je souhaite qu'un terroriste, il ne commette pas d'actes terroristes. Et la première des choses à faire, d'ailleurs, je l'ai dit aussi dans cette intervention, c'est de tarir la source. C'est ce qu'a dit Germaine Tillon.
Mais si on
n'empêchera jamais un gauche... Eh bien, ensuite, on le punit. Et on le punit sévèrement. Mais la déchéance de nationalité, c'est une peine symbolique qui n'a aucune efficacité, notamment si les gens sont apatrides, ils disposent d'un autre statut et ils restent en France. Et d'ailleurs, j'ai évoqué cette poussée anarchiste parce qu'à cette époque-là, on a refusé de leur donner, d'alimenter la martyrologie victimaire des anarchistes. De la même manière, je pense que, comme l'a dit Jean-Jacques Urvoas, il ne faut pas alimenter la martyrologie des djihadistes.
C'est ce que vous avez d'ailleurs cité, vous l'avez cité vendredi matin.
Oui, mais il faut lire son rapport.
Justement, imaginons, c'est une hypothèse qui était effrayante à mettre sur la table, mais imaginons qu'il y ait un nouvel attentat, Cécile Duflot. Qu'est-ce que vous direz aux Français à ce moment-là? Vous direz, non, on n'a pas voulu, nous, voter la déchéance dans la Constitution. Quand ils vous diront, est-ce que vous avez tout fait pour empêcher
le gouvernement est assez assuré et considère que le vote sera obtenu mercredi prochain. Alors je vous dis l'inverse. Une fois que ce vote, cette déchéance aura été inscrite dans la Constitution, qu'est-ce qui se passera s'il y a un nouvel attentat? Qu'est-ce qu'on fera quand on aura utilisé le maximum du maximum des pouvoirs de la Constitution? Je vous dis ce que je dirais s'il y a un nouvel attentat. Et moi, je vis à Paris. Je vis dans le quartier où il y a eu les attentats. J'y suis élue. Mes enfants vont au lycée. Ils ont vécu les alertes à la bombe. Donc, je n'ai aucun état d'âme à dire qu'il faut que nous fassions notre travail. Mais faire notre travail de responsable politique, c'est donner les moyens à la police, aux services de renseignement, pour chasser et intervenir. Ça n'est pas donner de manière publique des symboles dont on sait qu'ils n'ont pas d'efficacité. Et il faut assumer le risque. Il faut assumer quand on est un responsable
très
politique.
Là-dessus, au moins, vous soutenez le gouvernement dans ce qui est l'essentiel de ce programme, à côté de la mesure symbolique sur la déchéance de nationalité, ce programme de lutte contre le terrorisme, notamment le renforcement des pouvoirs de police. Quand Manuel Valls dit « grâce à une perquisition administrative, nous avons pu empêcher un attentat », là, vous le soutenez?
Je pense que ça, c'est faux d'ailleurs. Les journalistes... Alors là, je vais vous dire, je pense que dans la période, il y a deux catégories de personnes qui
doivent être à la hauteur. Vous pensez que Manuel Valls a menti quand il a dit qu'une perquisition administrative a permis d'empêcher un attentat?
En tout cas, il ne prouve pas que par des moyens des justices traditionnelles hors de l'état d'urgence, on aurait pu avoir les mêmes constatations.
Ça fait beaucoup de mensonges du Premier ministre, là.
Mais sauf que, je vais vous dire une chose, dans la période, les politiques doivent être à la hauteur, y compris être courageux et être face à vous et ne pas avoir peur d'être traîné dans la boue, parce que c'est effectivement la tentative, mais manque de bol, je suis là, je suis debout et je vais rester défendre des valeurs et des convictions, parce que c'est effectivement dans les périodes les plus troublées que c'est le plus difficile. Mais c'est là qu'il faut être peut-être le plus courageux. Et de la même manière, les journalistes doivent faire leur travail. Doivent faire leur travail d'investigation, de preuve que les moyens utilisés sont bien utilisés, qu'on n'est pas dans une forme de communication autour de ces moyens. Et la question de l'état d'urgence est intéressante. Nous avons des moyens de droit pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui et pour lutter contre les criminels. Il faut les utiliser. Nous avons été capables. Il y a eu 8 attentats en 1995 en l'espace de 3 mois. Eh bien, il n'y a pas eu l'état d'urgence qui a été décrété.
Mais les moyens traditionnels n'ont pas permis d'empêcher les attentats de l'année dernière.
Mais parce que, je vous dis, j'ai connu un traumatisme sans précédent.
Oui, et c'est pour ça que nous devons nous tenir debout et nous devons aussi être fidèles à nos valeurs. Ce qui a été attaqué, notamment par ce type de terroriste, c'est la démocratie et les valeurs de notre pays. Si sous leurs attaques, nous renions nos principes, nous leur donnons une forme de victoire. Donc je veux que nous fassions face avec nos valeurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être, qu'il faut ne pas penser qu'on a besoin, par exemple, de davantage de moyens de police, par exemple.
Christophe Jacubizine.
Quand on vous écoute depuis le début de l'émission, on a l'impression, au fond, qu'on a atteint une sorte de point de non-retour entre vous et les socialistes, en tout cas tels que les socialistes gouvernent aujourd'hui. Est-ce que c'est encore réconciliable?
D'abord, la question, c'est quel socialiste? Moi, je suis heureuse d'avoir reçu le soutien d'un certain nombre de socialistes et plus que nombreux. Ben, y a beaucoup de sections socialistes, beaucoup, notamment à Paris, qui ont été très claires sur leur opposition à cette réforme. Ne mélangeons pas tout, regardons bien ce qui est en train d'être fait. Et la question n'est pas d'être un point de non-retour, la question est d'être dans un point de débat politique, effectivement, très fort. Très fort parce que pour la première fois, depuis très longtemps, une réforme constitutionnelle enlève des libertés. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, on ne peut pas faire ça à la légère. On doit toucher aux libertés publiques qu'en tremblant, je l'ai dit à Versailles.
Ça, on a compris à quel point vous mettiez en garde, effectivement, le Parlement et l'opinion publique face à ce risque de constitutionnalisation de la déchéance. Mais pour faire suite à la question de Christophe sur, finalement, ce casus belli qui scelle une impossibilité de travailler entre vous et les socialistes, Nicolas Hulot a été approché pour entrer dans le gouvernement, qui est quand même une figure de proue de l'écologie. Mmh. Est-ce que vous avez dit ouf quand il a refusé par un tweet?
Non, vous savez, moi j'ai une grande confiance.
Vous l'avez conseillé de ne pas y aller.
J'ai une grande confiance dans la boussole de Nicolas Hulot, à la fois sur les valeurs et sur ce qu'il est possible de faire à tel ou tel endroit. Donc,
vous en avez parlé avec lui d'ailleurs, mais dans les 24 heures d'hésitation.
Il n'a pas besoin d'être conseillé. Il a dit les choses avec beaucoup de netteté.
Il avait conscience d'être manipulé par Hollande, c'est-à-dire que le fait qu'il rentre.
Vous allez inviter Nicolas Hulot et il vous expliquera. Moi, je dis que je sais que c'est un homme de valeur et c'est un homme d'une grande rectitude. Mais
sauf que la boussole n'a pas toujours fonctionné, par exemple.
C'est quand même une belle occasion manquée, parce que avoir un écologiste au gouvernement pour mettre en œuvre ce qui a quand même été un grand succès écologique, qui a été la COP21, et ça pour des raisons tactiques entre guillemets ou de politiciennes, on évite ça.
Moi, vous pouvez me faire ce procès, mais à Nicolas Hulot, le procès en tactique, je pense qu'il tombe complètement à la flotte. Hein, donc, en revanche, là, vous avez raison. Oui, il y a une occasion manquée. À mon avis, dramatique.
Une occasion manquée pour les écologistes de mettre en pratique la politique qu'ils appellent de leur vœu dans l'écologie.
C'est une très belle victoire.
Celle de l'écologie dans ce gouvernement. Celle de l'écologie dans ce gouvernement.
Le bilan François Hollande en écologie,
c'est très, très, on va dire, si je suis aimable, contrasté. Oui, la COP21 est un succès, mais quand, dans le même temps, on fait les bouts rouges, on s'obstine sur Notre-Dame-des-Landes, qui est contradictoire avec les engagements pris au Bourget, et évidemment que la loi de transition énergétique était une bonne loi, mais il fallait qu'il y ait la première programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2016-2018. Elle n'a même pas été discutée. On est
alors,
qui au milieu du mois.
Qui pourrait représenter l'écologie au gouvernement demain? Emmanuel Coste, si on lui propose,
mais
vous lui dites
voyez
quoi
bien, vous savez, au moment où je suis partie, j'ai dit que la question n'était pas celle du poste, la question était celle de l'orientation du gouvernement. Parce que le plus beau poste, avec les plus belles décorations, avec le plus beau ministère, c'est un couteau sans lame si le cap du gouvernement n'est pas le cap de l'écologie.
C'est pour ça que Nicolas Hulot avait préféré un rôle de conseiller spécial auprès du président et qu'il a mené, ce que vous n'avez pas fait, les négociations de la COP21 à l'Élysée, finalement.
Celui qui a mené, c'est Nicolas Hulot, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est révélé un diplomate hors pair, puisque c'était davantage, d'ailleurs, il fallait avoir cette sensibilité sur la question de la crise climatique, mais d'immenses talents de négociateur et diplomate, et sont été ceux de Laurent Fabius.
Un hommage appuyé à Laurent Fabius.
Mais j'ai aucune difficulté à le reconnaître. Je pense qu'il fallait un diplomate et un homme expérimenté. Et je pense que c'était la meilleure personne à cette place-là pour aboutir à cet objectif.
Alors Emmanuel Coste, en tout cas, vous dites, on comprend qu'il n'est pas question, en tout cas avec votre accord, avec l'accord des Verts, d'entrer au gouvernement. Si elle entrait au gouvernement, ce serait une aventure personnelle.
Mais vous les savez, Verts, les si, j'ai été habituée à ne pas commenter, surtout dans ces périodes de remaniement. Oui, mais donc je vous dis, la position d'Europe Écologie Les Verts, elle est connue. C'est qu'on ne peut pas participer à un gouvernement où le cap général est en contradiction avec, là, maintenant, nos valeurs, ce qui est encore une couche supplémentaire, mais précédemment, qui ne souhaite pas
mais
aller dans
Emmanuel
le sens
Valls,
de
l'écologie. Emmanuel Valls, il vitupère qu'en général, contre cette gauche qui est incapable de gouverner, il vous dirait que vous en êtes le meilleur exemple. Vous ne voulez pas gouverner, vous ne voulez pas finalement vous être associé aux responsabilités.
Ça participe de ce discours. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes soit un gauchiste, soit irresponsable, soit vous êtes maintenant avec la polémique que vous connaissez. C'est le discrédit de la parole contraire. Mais ça ne m'impressionne pas.
Mais les
moi,
je suis
une femme responsable, je suis une écologiste libre et je considère que le pouvoir fait bouger les choses. J'ai été ministre du logement. On a mis en place l'encadrement des loyers. C'est lui d'ailleurs qui l'a limité à Paris. On aurait pu aller plus loin.
Manuel Valls est revenu très largement d'ailleurs sur votre loi sur le logement.
À tort.
En disant qu'elle ne produisait pas les effets sur la relance du secteur.
Et l'objectif de loi pour encadrer les loyers, c'est de faire baisser un budget extrêmement contraint dans le budget des familles, et c'est de faire en sorte qu'on puisse se loger plus facilement et de lutter contre la bulle immobilière.
Et vous ne trouvez rien à sauver dans la politique de ce gouvernement, finalement ?
Si, il y a eu un certain nombre de choses pas inintéressantes. Je pense que sur la loi santé que j'ai votée, il y a des choses intéressantes. Vous voyez que je ne suis pas rancunière à l'égard de Marisol Touraine, qui sont obligées de donner des gages. C'est un peu triste, mais qui a fait de bonnes choses dans la loi santé.
Vous lui avez reproché de participer à une cabale contre vous, oui, par Twitter, d'ailleurs.
Oui, mais en revanche, j'ai voté la loi santé. Je ne regrette pas. Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment dans le bon
sens. Vous attendez quoi
de la même manière que nous avons voté la loi sur le numérique d'Axel Le Maire, qui est une bonne loi, qui va dans le bon sens. Non, vous ne trouvez pas en moi une opposante. Vous trouvez...
Quand Figaro vous décerne le titre d'opposante en chef à Manuel Valls hier.
Mais ça, vous savez, c'est l'analyse du petit monde politique.
C'est un grand journal.
Aujourd'hui, est-ce que je suis une opposante à non seulement la politique que mène Manuel Valls, mais surtout ses méthodes ? Et là, je peux vous dire que ces derniers temps, je trouve que le mauvais côté de ces méthodes s'aggrave. La réponse est oui. Je n'accepte pas et je n'accepterai pas que le Premier ministre de mon pays se mette en tête de discréditer ceux qui tiennent une parole contraire sur des sujets aussi vastes. Les choses sont très claires et je ne le laisserai pas faire. Et qu'il ne croit pas, y compris avec ses bulldogs aboyeurs, qu'il va m'impressionner.
Vous attendez quoi de ce remaniement qui s'annonce pour la fin de semaine ou les jours suivants ? Vous demandez un message politique.
Mais vous savez, moi, après les élections régionales, qui ont vu un score historique pour l'extrême droite, heureusement.
Très peu de l'extrême droite, très peu de la lutte contre les idées
c'est
des
génial.
Républicains.
Génial. Je prononce ce mot et vous me dites.
Non, mais parce que effectivement, il me vient à l'esprit que finalement, on se demande parfois si vous vous trompez pas de combat. Vous parlez très peu du Front National et beaucoup de Manuel Valls.
Je me permets d'être un petit peu désagréable avec vous, Madame Martichoux. Mon combat. Historique, il est contre la droite et contre l'extrême droite. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose assez simple, je l'ai dit en présentant mon discours. Si cette mesure sur la déchéance avait été présentée par la droite, celui qui aurait parlé à ma place, c'était le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il aurait sans doute été encore plus virulent que je ne l'ai été.
Manuel Valls, c'est la droite,
moi,
c'est la même
en fait,
chose.
Le sujet, ce n'est pas les étiquettes. Le sujet, ce n'est pas les étiquettes. Le sujet, c'est le projet politique. Et quand je me retrouve avec Patrick Devedjian, avec Nathalie Kosciusko-Morizet ou avec Bernard Debré à défendre les mêmes valeurs et les mêmes principes...
Sur la déchéance.
Ou sur la déchéance, je n'ai pas de problème. Moi, mon sujet, c'est le cap politique qui est donné. Ce n'est pas l'étiquette. Et je suis sûre qu'il y a énormément de socialistes qui partagent ce que j'ai dit. Et je suis évidemment tout à fait prête à travailler avec eux.
Vos combats, c'est intéressant d'y arrêter, si vous permettez, dans la deuxième partie de l'émission. On y revient, on fait une petite pause. Merci Cécile Duflo, à tout de suite.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Cécile Duflo, députée de Paris, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Christophe, on reprend sur la politique et l'intervention de Christiane Taubira.
Oui, avec la sortie,
d'abord.
Évidemment, il y a quelques jours de Christiane Taubira du gouvernement, pour sans doute à peu près les mêmes raisons que vous sur la déchéance, sauf que... On l'a vu avec cette dernière intervention dans les médias ces derniers jours, elle ne met pas la même virulence contre François Hollande ou même Manuel Valls, dont elle parle comme d'un ami. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui vous dessert un peu ? C'est-à-dire d'avoir cette... donner le sentiment qu'il y a une sorte de ressentiment personnel contre Manuel Valls.
Vous savez, ça c'est un autre élément assez simple. Je l'ai vu d'ailleurs au moment de mon départ du gouvernement en 2014. Il était quand même très fondé politiquement. Je l'ai écrit, je l'ai expliqué. Mais on a dit, elle a un problème personnel. Alors, je suis très, très vigilante sur la dimension sexiste des attaques, parce que souvent, on se dit, ah bah, dès qu'une femme dit ça, c'est facile, ça l'excuse de tout. Mais c'est vrai.
Je pointais justement la différence avec Christiane Taubira, qui continue, alors qu'elle est partie pour les mêmes raisons que vous, qui continue de dire son amitié pour Manuel Valls.
Alors, je ne l'ai pas entendu, mais je ne mets pas en cause. Je l'ai écouté hier soir sur France 2, je ne l'ai pas entendu dire ces mots-là.
Il y a une relation d'amitié entre le Premier ministre et moi, a-t-elle dit, pour être précis.
Eh bien, très bien. Il n'y en a pas entre le Premier ministre et moi. et ça n'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai été secrétaire nationale d'un parti politique, j'ai travaillé avec des gens très différents, et je pense qu'en politique, la question n'est pas d'avoir ou pas des problèmes personnels. La question est d'avoir des désaccords politiques, de pouvoir avoir des compromis, et quand ils sont manifestes, de prendre un certain nombre de décisions. C'est ce qui a été mon cas et celui de Pascal Canfin quand nous sommes partis. Mais ce que je veux dire, c'est que ma décision en 2014 était basée sur l'analyse que ce qui allait se dérouler avec Manuel Valls et ses convictions Premier ministre est ce que nous vivons. C'est-à-dire une vision que je ne partage pas du tout sur l'écologie, c'est vraiment au rayon 150 de ses priorités, et ensuite une vision de la politique à conduire basée sur les questions d'identité et sur l'autorité. Je pense que le sujet majeur, c'est à la fois la crise écologique et l'aggravation des inégalités. C'est à ces deux enjeux que notre politique doit faire face, dans la suite d'ailleurs de l'accord du Bourget, et qu'aujourd'hui ça n'est pas la politique qui est conduite, et je crois que c'est une erreur. À partir de ce moment-là où le désaccord est si profond, il faut en tirer les conséquences. On ne peut pas participer à un gouvernement dans lequel on croit que l'orientation générale n'est pas celle-là. Et j'avais des désaccords avec Jean-Marc Ayrault sur un certain nombre de sujets, mais nous pouvions sur d'autres, trouver un point de compromis et d'équilibre.
Et quand il y a des accords aussi, des désaccords aussi profonds que ceux que vous venez de dénoncer des apostrophes, est-ce que il est possible d'envisager un accord législatif entre vous et le Parti Socialiste pour les législatives de 2017? Je vous pose la question parce que c'est très important, évidemment, et que là-dessus, finalement, c'est pas très clair.
Mais je vais vous dire, entre aujourd'hui et 2017, on voit bien d'ailleurs, si on nous avait dit il y a 3 mois qu'on serait dans cette situation d'embrouillamini tactico-politique sur un sujet pourtant majeur, il y a 3 mois, on n'aurait pas pensé. Donc la vie politique, c'est plein d'événements.
Vous dites on n'a rien à faire avec ce gouvernement, vous ne croyez pas du tout à une conversion du gouvernement.
Mais je ne sais pas.
À vos thèses écologiques.
Ce gouvernement-là, non. Ce gouvernement-là, non. Mais il se trouve, tout à l'heure, vous m'avez interrompu quand j'ai parlé du résultat de l'extrême droite lors des élections régionales. Et ça a été critiqué, y compris dans mon parti, tendu la main au président de la République en disant, à partir du moment où on est dans cette situation, après ce qui s'est passé avec les électeurs, aux élections municipales, aux élections départementales, et maintenant aux élections régionales, où bien sûr certaines régions ont été gardées à gauche, mais au prix d'un score de l'extrême droite de 35% en triangulaire, il faut changer de politique, il faut changer le message, y compris le message collectif.
Vous allez voter contre sa réforme constitutionnelle, on va le dire. Vous attendez quand même pas de lui qu'il vous tende la main après.
Mais c'était avant. Il se trouve que
D'ici 2017, on voit mal François Hollande rechanger de cap à nouveau.
Vous savez, on a fait face à des événements d'une gravité très importantes qui ont fragilisé notre pays et sa confiance en lui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui savent ce qui va se passer
pendant les 15 mois qui viennent.
Mais parce que quand la question se posera, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on est en capacité aujourd'hui, d'où mon soutien, par exemple, à l'initiative en faveur de la primaire, de redonner de l'espoir et de l'envie dans toutes les familles politiques qui ont permis cette majorité.
Est-ce que ce ne serait pas finalement le choix de l'autonomie qui serait le plus clair pour les Verts? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de repartir sur un autre pied, compte tenu du fait que vous avez une ligne qui est illisible, un parti qui est complètement explosé, en miettes? Est-ce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, j'assume l'autonomie?
La ligne illisible, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez faire beaucoup de critiques aux écologistes, mais leur position sur un certain nombre de sujets, et d'ailleurs le fait qu'ils aient anticipé des difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, ça c'est une réalité.
Il y a des parlementaires verts qui sont dans votre groupe, qui vont voter pour la révision de la Constitution.
Ils ne sont plus dans mon parti.
Ils sont dans le groupe parlementaire.
Oui, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, vous voyez bien, et dans tous les groupes parlementaires, tous, sans exception, il n'y a pas de position univoque sur cette réforme. C'est très intéressant, on touche à un autre clivage, un clivage sur la relation aux valeurs, un autre clivage dans tous les groupes parlementaires sans exception. Ensuite, si vous me posez la question, est-ce que je serai candidate aux législatives en 2017, je peux vous dire d'ores et déjà, la réponse est oui. Dans ma circonscription, Belleville, Ménilmontant, je serai candidate. Est-ce qu'il y aura un accord entre les écologistes et les socialistes? Est-ce qu'il y aura une nouvelle force politique qui se présentera aux élections législatives? Est-ce que nous serons dans une dynamique autre? Est-ce qu'il y aura une dissolution avant? Je ne peux pas vous répondre. La seule chose que je sais, je ne pense pas ça. Je vous dis que je suis suffisamment vieille en politique pour savoir que les choses attendues ne sont pas forcément celles qui arrivent.
Mais ce serait sympa et moi, de je savoir souhaiterais, si vous je vais vous dire, si vous quitte à ne pas avoir de candidat, enfin vous serez candidate et vraisemblablement élue, mais pas autant de candidats aujourd'hui. Ce serait intéressant de savoir si vous voulez bien finalement reconstruire sur quelque chose, sur une base de départ qui serait tellement différente.
Si la question, et je crois qu'il va y avoir, après ce que nous avons vécu, un moment de recomposition politique dans la famille qu'on appelle traditionnellement de gauche, dont les écologistes...
Mais après la présidentielle, la recomposition, après une défaite, c'est ce que vous jouez, c'est-à-dire une défaite et derrière une reconstruction de la gauche.
Je ne sais pas, parce que justement, moi, en fait, depuis très longtemps, je ne joue ni la minorité, ni la défaite. Moi, je joue la victoire et la majorité.
Vous ne jouez pas la défaite de François Hollande ?
Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, si j'étais à sa place, ou si jamais il tentait de m'écouter, moi, j'aimerais que ce président de la République, qui se souvienne qu'il l'a élu, qui regarde la situation dans laquelle on est,
et qui décide de renverser la table et de dire, je ne veux pas. Cécile Duflot, vous ne trouvez pas que... Ça, je pense que les Français n'en peuvent plus. Vous dites, si François Hollande rechange encore d'ici un an, s'il refait une politique de gauche, alors peut-être qu'on sera derrière lui. Mais c'est incroyable, parce que pendant 3 ans, il aura fait autre chose de ce que vous vouliez.
Bah oui,
et tout d'un coup, pour des raisons politiques, il va changer de ligne, et vous allez dire, ah ben on va être derrière lui.
Le problème, il est où? Il est dans la politique qui est menée. D'ailleurs, c'était une politique... On pouvait me dire, vous n'êtes pas d'accord avec cette politique qui n'était pas celle qu'il avait annoncée lors de sa campagne, mais elle marche. Ce serait embarrassant. Elle ne marche pas.
Oui, mais donc il a le droit de revenir en arrière et de revenir sur 2012.
Mais je vais vous dire, c'est l'honneur de tous, et moi je me l'applique à moi-même de pouvoir reconnaître quand on s'est trompé. Ça arrive, y compris pour les responsables politiques. Et c'est justement en étant emprisonné dans cette idée, et c'est ce qui nous arrive avec la réforme constitutionnelle. On l'a dit. D'ailleurs, il peut changer de point de vue sur tout un tas de sujets, mais bizarrement sur certaines questions, on se dit, on l'a dit, donc on bouge plus.
On comprend tout ce que le Premier ministre. On verra si
c'est pas ce que j'ai dit.
Et de ligne,
c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis, je ne sais pas ce qu'il adviendra de mon pays et de la vie politique de mon pays entre aujourd'hui et 2017.
Guillaume Roquette.
Et justement, je ne veux absolument pas être dans la situation. Mais je constate que certains le sont en disant, on se croise les bras, on attend, de toute façon le truc va s'écrouler, on verra ce qu'on fait.
Donc vous tendez encore la main, François Hollande.
Non, je suis en situation de ne pas accepter l'idée qu'on fragilise tellement la politique qu'il n'y a plus aucun espoir et que
la seule
alternative possible, exactement, la suite de la terre brûlée, quand on a dit que la gauche et la droite c'était pareil, c'est la porte ouverte à l'extrême droite.
Ce à quoi Manuel Valls et probablement François Hollande vous répondront, principe de réalité, parce que la ligne que vous avez suivie, elle a obtenu un résultat très mauvais au régional, donc vous n'êtes pas entendu par les Français.
Mais je vais vous dire, ce qui s'est passé aux élections régionales, c'est la désaffection majeure de tout l'électorat de 2012. C'est-à-dire tous, et ils ont effectivement, tous les partis politiques, je l'ai dit, sont à la fois fracturés et en situation difficile. Tous ceux qui ont fait la majorité.
Mais les gens
2012.
Qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, quand ils vont voter, ils ne vont pas voter pour vous, ils vont voter pour le Front National.
Et c'est bien mon problème. C'est pour ça que je vous dis, nous avons le devoir de faire émerger une force politique, des idées, un projet. Quand on dit le chômage continue d'augmenter, je dis en tant qu'écologiste que nous sommes dans une situation à l'échelle planétaire où d'abord, nous avons le risque d'une bulle qui sera à la fois financière et spéculative, encore plus importante que celle de 2008, de son explosion. Et nous avons aussi une situation de crise écologique qui s'aggrave, face à laquelle il faut absolument répondre. Et répondre avec des solutions nouvelles. Il ne s'agit pas de faire plus à gauche ou plus à droite, il s'agit de faire différemment. Il s'agit d'être moderne, il s'agit de faire confiance à ceux qui innovent, il s'agit de faire confiance à la jeunesse. Le vrai projet pour moi, il est autour de l'écologie, de la jeunesse et des libertés. Voilà ce dont nous avons besoin dans notre pays.
Pour essayer de faire ça avant 2017, c'est de la gauche, elles doivent être les primaires de toute la gauche, c'est-à-dire ce que vous considérez que si elles avaient lieu, si François Hollande acceptait, que tout le monde doit être candidat au sein de ces primaires, ou ce sont des primaires de l'autre gauche? C'est quoi votre
préférence? Moi, je ne connais pas l'autre gauche, parce que il se trouve que je suis écologiste.
Hein.
Non, moi, je pense que cette primaire, pour le coup, et je n'étais pas... Je suis une grande brûlée de la primaire. Moi, j'étais la spectatrice désolée de la primaire des écologistes en 2011, et je voyais jour après jour s'écrire ce
avec
résultat.
Avec cette boussole Nicolas Hulot qui n'a pas vraiment donné le cap de cette primaire.
Et je peux vous dire, j'ai peut-être un regret quand je vous dis parfois on s'est trompé. C'est que moi, j'étais favorable à la candidature de Nicolas Hulot, ça se savait, mais comme j'étais secrétaire nationale, je m'étais donné une discipline qui était de ne pas le dire. Je peux vous dire que je ne suis pas du tout certaine d'avoir eu raison.
Voilà,
je
Nicolas Hulot serait un bon candidat ?
Ah ça, alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je le pensais en 2011. Je change rarement de point de vue sur ce genre de sujet. Mais pour vous répondre, cette primaire, oui, elle doit être la plus large possible. Pour deux raisons. La première, parce que nous devons ouvrir un coin de ciel bleu. C'est-à-dire que dans ce marasme qu'est le résultat de 2012, 3 ans et demi après, cette déprime collective, parce que c'est quand même ça l'état d'esprit de tous les militants qui se sont mobilisés pour cette campagne, et même des électeurs. Enfin, la déception à l'égard du président. président de la République, c'est une réalité. Et donc, à partir du moment où on se dit, voilà, on va se mettre tous autour d'une table et on va discuter, les choses changent. Et on me dit, oui, mais ça ne peut pas être avec François Hollande, ça ne peut pas être avec Jean-Luc Mélenchon.
Mais vous avez vu le sondage aujourd'hui en France, aujourd'hui, s'il y avait une primaire de la gauche, ceux qui arrivent en tête, c'est Emmanuel Macron, Emmanuel Valls.
Et vous êtes d'ailleurs très très loin avec 2-3% d'attention de vote, donc il y a du boulot quand même.
Il y a du boulot.
Ce sont,
je peux vous poser une question taquine.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez me dire les résultats du même sondage sur la primaire de 2011?
Effectivement, au départ, Nicolas François Hollande était Monsieur 3%. Donc, vous considérez comme dans la même position François Hollande dans les sondages, Madame 3%.
Je vous pose une question simple.
Vous avez les mêmes espoirs.
Je vous pose une question simple. C'est pour ça que je vous dis, je fais de la politique avec une grande liberté et par conviction. Pas le nez sur les sondages.
Jean-Luc Mélenchon ne veut pas participer à la primaire parce qu'il ne veut pas prendre le risque de devoir suivre un candidat qui ne serait pas lui.
François Hollande.
Ça veut dire qu'il pense qu'il ne peut pas gagner cette primaire. Je trouve ça dommage. En même temps, je vais vous dire, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, ils ont passé 30 ans dans le même parti. Ils règlent beaucoup de comptes entre eux. Et d'ailleurs, je pense qu'on est parfois l'otage de ça. C'est pourquoi, sur ma divergence avec le Premier ministre, je le redis, elle n'est pas personnelle, elle est éminemment politique. Mais donc, cette primaire, c'est le moyen de mettre tout sur la table et de discuter des solutions. Et on ne sortira pas si elle avait lieu, y compris avec tout le monde. Moi, j'en respecterai évidemment les règles. Mais les différents candidats n'en sortiraient pas de la même manière dont ils sont entrés dans ce débat-là. Parce qu'on rendrait aux citoyens un certain nombre de discussions.
Ce n'est
pas une solution idéale. Le vrai problème, c'est la Ve République, la présidentialisation, et finalement ce qui repose sur un seul et sa décision.
Je vais aller vite parce que je voudrais qu'on parle des questions écolo aussi, mais encore une fois sur cette question, si Jean-Luc Mélenchon ne veut pas aller à la primaire, ni François Hollande, jusqu'où ça... Quand arrêterez-vous cette offensive primaire, puisque vous savez que c'est la condition par laquelle la gauche perdra 2017, il y a plusieurs candidats.
Vous avez compris que moi, je ne rentre pas dans les discussions par si, parce que sinon, on ne fait rien. Et en fait, je rentre chez moi.
Donc,
parce que
vous
je
voyez
pense
comment ça marche.
Tout est déprimant.
Et à un moment,
je pense
vous
qu'il faut faire en sorte que ça fonctionne. Et s'il y a des dizaines de milliers de citoyens qui disent, eh ben, vous allez tous faire ça parce qu'on en a marre de cette situation et on veut vous voir côte à côte et vous voir échanger les arguments directement, je pense que rien n'est écrit. Comme d'habitude, rien n'est écrit.
Dans le fond, pour vous, est-ce qu'Alain Juppé ne serait pas un meilleur candidat que François Hollande?
Oula.
Pour l'écologie?
C'est une drôle de question.
Pour les questions, je vous la pose. Il a été ministre de l'écologie.
Pas longtemps. C'est pas lui faire injure, c'est dire pas longtemps.
Il était sensible à la question. Parce que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon explique que finalement, le pire des pires, c'est François Hollande parce qu'il détruit la gauche. Et qu'à la limite, mieux vaut finalement un président de droite quelque temps pour recomposer cette gauche dans le sens où vous voulez.
Vous voyez, c'est typiquement la situation dans laquelle je ne suis jamais. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que sur la défaite, que sur le fait qu'on ait brûlé totalement notre camp, on reconstruit des choses positives. Je ne suis pas dans l'opposition de gauche. Je ne suis pas une opposante principale ou secondaire. Je suis attachée à ce que nous menions des politiques qui emmènent mon pays et l'Europe, parce que je crois qu'un certain nombre de sujets se traitent au niveau européen dans le bon sens. Et d'ailleurs, parmi mes désaccords avec ce qui s'est passé, c'est le rendez-vous manqué de l'écologie et aussi l'absence de rôle de la France dans la réorientation européenne qui était absolument nécessaire.
Question écologique concrète, Notre-Dame-des-Landes, la justice a validé les expulsions des agriculteurs qui s'y opposaient. Manuel Valls a dit oui, cet aéroport se fera. Combien de temps est-ce que certains écologistes vont s'entêter, y compris de façon violente, on l'a vu avec la manifestation d'hier en Bretagne, contre ce projet?
J'aime beaucoup votre question parce que c'est une question qui est pleine de sous-entendus. Les écologistes s'entêtent à s'opposer à un aéroport qui est bon, je sous-entends votre analyse.
Non, mais c'est un projet qui a été validé, on va
c'est
dire.
C'est faux.
Validé par la justice et par le gouvernement.
Il reste combien de recours en cours, M. Roquette, sur ce projet?
Il en reste quelques-uns et François Hollande s'était d'ailleurs engagé à ce que les travaux ne commencent pas tant que tous les recours n'auraient pas été épuisés.
Quelques-uns, c'est 17. C'est pas quelques-uns, c'est 17, dont certains au niveau européen.
Combien ont été déjà
beaucoup, notamment tous ceux qui étaient liés à la déclaration d'utilité publique. Mais la déclaration d'utilité publique a été décidée, et il faut lire le livre qu'a écrit Françoise Verchères sur le sujet, a été décidée avec de mauvais éléments. Elle s'est appuyée sur des éléments d'analyse sur l'évolution du trafic aérien qui sont erronés. Ça, c'est l'aspect positif ou un peu bidouillé. Donc, qui ne se valident pas.
Il y a une enquête publique là-dessus.
Je vais vous dire, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que ce projet, il date de 1967. Il était fait pour accueillir Concorde Short Pétrole revenant des États-Unis. Donc, on voit bien, on sait, pour le coup, ceux qui se sont entêtés, ceux qui se sont entêtés, c'est ceux qui se sont entichés d'un projet d'aéroport qui faisait moderne, avec un M majuscule, depuis 40 ans.
Donc vous la continuez réalité, de jouer la montre. Quand je dis vous, ce sont les écologistes.
La réalité, nous souhaitons que la position prise par le président de la République, c'est-à-dire pas de début de travaux, tant que les recours n'ont pas abouti, soit maintenue. C'est la question que j'avais posée au Premier ministre sur le respect de la parole du président de la République. Mais plus, de façon plus importante, cet aéroport est inutile. Il est inutile parce qu'on peut moderniser Nantes Atlantique pour beaucoup moins d'argent, beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, partout dans le monde, le système aéroportuaire, ce sont des hubs et ensuite des destinations gérées par... Vous pouvez... Tiquet, c'est une réalité.
Non, c'est parce qu'il y a un débat là-dessus, vous le savez bien. Il y a des gens qui disent que l'aéroport actuel est trop proche de la ville. Enfin, je veux dire, il y a une enquête publique qui a été menée.
À ce moment-là, il y a une urgence absolue, c'est Orly, hein. Parce que Orly, il n'est pas trop proche de la ville, il est au cœur de l'agglomération parisienne.
C'est plus difficile de trouver un lieu alternatif autour de Paris qu'autour de Nantes, apparemment.
Mais je veux dire, il y a énormément d'aéroports qui sont à proximité des grandes villes. Et la vérité, c'est que les aéroports, si on veut des liaisons internationales pour Nantes, il faut qu'elles s'appuient sur les avions qui atterrissent sur le hub de Roissy avec un TGV cadencé vers Nantes. C'est ça qu'on fait au niveau international. C'est un aéroport régional. Même l'aéroport de Lyon est en difficulté sur son trafic. On sait très bien aujourd'hui comment fonctionne le système aéroportuaire. Tous les plus grands spécialistes le disent. Donc cet aéroport,
mais
il
compte tenu de ces éléments, est-ce que vous pensez que le gouvernement va recourir à une forme de violence avec effectivement des expulsions forcées avant 2017?
Je vais reprendre les mots de Ségolène Royal. On ne va pas se lancer dans une guerre civile. Moi, j'ai vécu en étant membre du gouvernement.
Pas du tout. Il parle. Manuel Valls invoque le droit,
je vous l'ai redit. La question du droit, c'est celle d'attendre la fin des recours. Parce que, imaginons que l'aéroport soit quand même construit et que les recours aboutissent, que cet aéroport soit illégal. On le démonte ? Vous savez bien que non. Donc vous voyez bien qu'on a un problème, et d'ailleurs c'était un autre engagement très important, ce qu'on appelle la réforme de la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas lancer la construction de projets tant qu'on n'est pas allé au bout de leur validité. Vous connaissez l'histoire du barrage de Sivens qui a donné lieu à la mort de Rémi Fraisse, qui reste une plaie ouverte chez beaucoup d'entre nous. À côté de ce barrage, il y a un autre barrage, celui de Fourogue. Sa déclaration d'utilité publique a été abrogée. Il est illégal, mais il est quand même construit. Donc il faut aussi changer les règles de la manière de prendre les décisions pour respecter l'environnement. On est sur un modèle des années 70.
Alors à propos de
règles,
parlons des pesticides.
Les travaux avant et ensuite,
il y a
réfléchit.
Eu un document, un film choc cette semaine qui a été diffusé, qui a beaucoup fait réagir. Ségolène Royal a, elle, dénoncé des lobbies. La question est de savoir ce que vous réclamez, vous. Est-ce que vous réclamez un moratoire, une interdiction de ces pesticides? Quelle est la réponse à l'émotion qu'a suscité cette dénonciation de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture française encore aujourd'hui?
Alors d'abord, il y a un sujet très important, les pesticides, mais plus largement, d'autres produits et leurs conséquences sur la santé, notamment sur les enfants. Et parallèlement, d'ailleurs c'est pas un hasard, il y a le mal-être des paysans et des agriculteurs de notre pays. Et je pense que le temps est venu d'une vraie réconciliation et...
Pas facile à dire et à faire.
Oui, parce qu'effectivement, pas facile à faire. Mais je le dis en prenant la part qui est celle des écologistes, entre les écologistes et les paysans. Ils souffrent d'un modèle dans lequel on les a enfermés, qui a eu des conséquences sur la santé, mais surtout qui a eu des conséquences sur leur vie même, c'est-à-dire enfermés dans un modèle où ils ont été, pour une part, l'otage d'ailleurs du syndicat majoritaire qui les a obligés d'investir, de surinvestir, de mécaniser, exactement, et qui a des conséquences sur la santé des agriculteurs, on le sait, il y a des maladies professionnelles de plus en plus, notamment chez les vignerons par exemple, et de la même manière, les consommateurs se sont mis à consommer des produits qui étaient de plus en plus dangereux à terme pour la santé. Et donc, c'est plus qu'un moratoire. Il faut aller vers une autre forme d'agriculture, une agriculture où les paysans vivent de leur travail et où ils nourrissent une population avec des produits de qualité.
Mais ça, c'est un souhait, mais concrètement, ça veut dire qu'il faut interdire les pesticides ?
Ça veut dire qu'il faut aller vers la disparition d'une agriculture qui recourt aux produits chimiques.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce qu'il y en a de plus en plus. C'était l'un des enseignements de ce reportage.
Exactement. Et pourquoi il y en a de plus en plus ? Parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs derrière. Et on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, qui pèsent aussi sur les parlementaires, sur le travail des ministres, parce qu'ils font pression. Mais on peut changer de modèle. C'est l'intérêt de la planète, c'est l'intérêt des consommateurs, c'est l'intérêt de la santé des enfants et des générations futures, et c'est l'intérêt des agriculteurs.
Et le dossier Bourrouge, sur lequel s'oppose Manuel Valls et justement encore Ségolène Royal.
Ségolène Royal a raison. Voilà, c'est simple.
Donc qui permet de continuer à évacuer en Méditerranée, au large de Marseille, voilà. Les Bourrouges.
Merci. Guillaume, d'avoir rappelé.
Et il faut, sur un certain nombre de ces industries, il faut les aider à faire ce changement. Ça, on n'a pas parlé à cet instant du diesel, mais on a emmené
Benoît Galeret qui nous rejoint,
On a emmené les entreprises automobiles françaises à se spécialiser dans le diesel, avec une subvention de fait au diesel par le biais de nos impôts, alors même que c'était dangereux pour la santé. Donc cette conversion de l'industrie, elle est utile pour l'avenir, parce que si on reste fermé dans des modèles du passé, que ce soit nos industries, que ce soit notre agriculture, que ce soit l'ensemble des activités économiques, nous serons en retard. Donc nous devons retrouver le chemin de l'innovation écologique, d'une innovation durable, et nous avons toutes les ressources en France, toutes les intelligences.
Benoît Galeret a regardé toutes les questions, toutes les réflexions que suscitait depuis le début de l'émission vos déclarations. Benoît ?
En tout cas, vous les avez bien réveillés, nos auditeurs. Oui. Du flot est bouillante, tweet Gary. Il y a Julien quand même qui regrette qu'en 30 minutes d'interview, il était encore au début, vous n'ayez pas encore parlé beaucoup d'écologie. On s'est rattrapé un peu sur la fin. Exip aussi note cette phrase: mon combat, il est contre le FN officiel et la droite. Ah bah dommage pour l'écologie, dit-elle. Gros succès pour votre tacle à François Drugy. C'est histoire de citer son nom parce qu'il y a un remaniement dans 3 jours. Du coup, Netchis vous demande si vous entendez que les placés Pompili et Drugy qui veulent à tout prix entrer au gouvernement n'ont pas de valeur écolo.
Moi, je suis pas là pour donner des bons, des mauvais points. Moi, je me définis pas par rapport à tel ou tel. Je me définis par rapport à mes convictions, par l'histoire de mon parcours, c'est tout.
Donc vous, alors parlons-en. Madou vous définit non pas comme une opposante, mais plutôt comme une sirène d'alarme. Elle dit attendons la réaction des bulldogs aboyeurs dont vous avez parlé. Pilou, au contraire, vous voit dans un parti construit avec Taubira, Montebourg, Hamon et Duflo pour la 6e République. C'était hier, en écoutant Christiane Taubira, qu'il rêvait de ceci. Vous signez ?
Sur le fait que je suis sûre que je serai dans la même famille politique qu'un certain nombre de gens que vous avez cités, je pense qu'il y a des probabilités fortes, oui. Moi, je suis pour faire ouvrir une autre voie entre la vieille gauche et la vieille droite. Une voie moderne, une voie écologiste, une voie solidaire, parce que je pense qu'on a besoin de politique plus que jamais.
Voilà. Ça passe par un nouveau parti.
Ça passe par une force politique régénérée, oui, bien sûr. Et je le dis, je n'ai pas de patriotisme de parti. J'ai été secrétaire nationale pendant longtemps d'un parti politique. Nous l'avons transmuté en Europe Écologie Les Verts. Et Europe Écologie Les Verts a été utile à transmis un certain nombre de valeurs, a franchi une étape, mais maintenant on est au-devant d'une nouvelle étape.
Christiane Taubira a envie de continuer de faire de la politique ?
Je pense que c'est une femme politique par toutes les fibres de ce qu'elle est. Voilà.
Donc elle fera, elle agira, elle
ça je sais paraîtra. Pas, mais elle respire politique.
Elle ne peut pas abandonner la politique.
Elle est pleine de convictions, elle est pleine de combats et je la respecte infiniment pour ça.
Vous lui demandez de prendre position.
Vous savez, moi, je ne demande pas aux gens. Ils font ce qu'ils veulent.
Dans la période. Vous appuyez.
Parce que vous avez deux champions. Vous avez Nicolas Hulot et Christiane Taubira, quand on nous entend.
Et ben, dans la période, je trouve que, en fait, chacun est confronté un peu au cœur vivant de ses valeurs et de sa capacité à résister. C'est intéressant. C'est un moment intéressant. C'est un moment où on voit les caractères.
Alors, ce que vous avez dit de François Hollande aussi a fait réagir, maintenant.
Oui, en effet, sur votre position, certains se posent des questions. Ulysse dit que vous faites miroiter un éventuel changement de cap de Hollande d'ici à 2017, stop, basta, c'est lamentable. Vous suggérez que si...
Oui, mais
vous...
je le connais, lui. De toute façon, il pense que tout est foutu. Hein.
Alors, il y a une question pour vous beaucoup plus précise. Si, par hypothèse, Hollande remportait la primaire, Madame Duflo le soutiendrait-il ? Qu'elle réponde à cette question.
Alors, si je participe à une primaire avec des règles, le principe de base, c'est que je respecte ces règles. Voilà. Et ça, ça a toujours été mon cas et ça le sera toujours.
Donc vous
ça fait partie de mes principes.
Vous rangeriez derrière le vainqueur.
Derrière le vainqueur.
Mais si,
même
quand
s'il
on...
reste sur la même ligne
même
qu'aujourd'hui.
Même si c'est Manuel Valls.
D'accord. Donc, vous voyez bien que vous faites une sorte de truc un peu exotique. Par ailleurs, si je participe à une primaire, je n'ai pas encore décidé ça, mais si ça arrivait, ce serait pour gagner. Oui. Je sais, ça a l'air de vous faire bizarre.
Vous ou Nicolas Hulot ou Christiane Taubira?
Mais je vous dis, si je ne considère pas qu'il y a de meilleurs candidats que moi. J'ai dit déjà plusieurs fois que je pensais que si Nicolas Hulot était candidat, c'était un excellent candidat.
Allez, la question bonus de ce grand jury, Guillaume Roquette.
Oui. Nénuphar, vous l'écrivez comment ? Vous préférez le PH ou le F ? Et est-ce que cette réforme de l'orthographe paraît une bonne idée ?
Il y a eu un débat familial considérable chez moi sur ce sujet, où mes enfants ont incarné le conservatisme le plus extrême sur l'orthographe.
Je ne sais plus comment s'appelle tes
rêves. C'est assez fréquent chez les jeunes, qui sont aujourd'hui plus à droite que leurs parents.
Je vais vous dire une chose, j'ai j'ai vécu une espèce de sentiment très particulier, c'est que ce débat date de 1990. Mmh. Je m'en souviens parfaitement parce qu'à l'époque, j'étais très, comme ma fille aujourd'hui, très réservée. Et, mais c'est quand même assez rigolo de revivre un débat d'il y a 25 ans.
Ouais, donc tout le monde a le droit... L'écrivait déjà avec un F. Hein. C'est avant 1930, on écrivait les nénuphars avec un F. Donc après
c'est pour
tout,
ça que pour moi, il n'y a pas de sujet. En fait.
Y a pas de sujet.
Vous, on peut l'écrire avec PH et l'écrire avec un F. Le vrai sujet, c'est qu'un nénuphar, c'est absolument magique, magnifique. C'est fleurs posées sur l'eau. Voilà.
Quelle que soit la façon
c'est bien
dont
qu'on parle
l'écrit.
De ce mot.
Ah, c'est bien une petite note poétique à la fin de ce grand jury. Merci à vous. Cécile Duflo, coprésidente du groupe Vert à l'Assemblée, ancienne ministre de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. Et avec tous les si que vous ne voulez pas, peut-être candidate aux primaires, qui sait, la présidentielle. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci Guillaume Roquette, Christophe Jacubizine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.